Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons à la fin de l'article 8 du catéchisme de l'Église catholique qui portait sur le « Je crois en l'Esprit Saint ». Et on sent en cette fin d'article 8, au numéro 739 et 740, qu'on nous annonce déjà les deuxièmes parties du catéchisme et du troisième partie du catéchisme.
Et même du quatrième au 741.
Ah oui, et même du quatrième. Tu pourrais nous rappeler un peu comment fonctionne le catéchisme, sa structure en général et ce qu'on va trouver bientôt ?
Alors oui, il y a donc un souci pédagogique dans le catéchisme de l'Église catholique de nous donner, dans le fond, les quatre dimensions de l'Écriture sainte. Quels sont les quatre sens de l'Écriture sainte ? Eh bien, le premier sens, évident, c'est le sens historique, hein, qui saute aux yeux de nos jours plus fortement. Hein. On dira « littera gesta docet », le Seigneur enseigne littéralement par ses propres gestes. Hein. Ce sont les sacrements de l'Église, sont le moyen que Jésus s'est donné pour cette Église donc continuer et prolonger, comme nous disions précédemment, pour cette Église répandue et communiquée, selon la parole de Bossuet. Et c'est donc le sens littéral de ces sacrements qui vont être l'objet de la deuxième partie du catéchisme et qui est l'objet donc du numéro 739. Hein, parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession dans le monde entier. C'est extraordinaire ce projet et ce que réalisent ces sacrements. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint, et sanctificateur, saint et sanctificateur. C'est-à-dire non seulement il est saint en lui-même, mais il nous sanctifie pour de bon. Hein. Et c'est très beau de voir cette double dimension hein, de sainteté que l'Esprit partage avec le Père et le Fils, mais aussi c'est le premier que nous rencontrons d'une certaine manière, puisque l'Esprit Saint se fait proche de nous, il nous est communiqué, l'amour de Dieu a été communiqué dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Je rappelle ce que disait saint Paul dans Romains 5:5. Donc c'est la deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique, après une première partie qu'il ne faut pas oublier, qui est le credo lui-même, qui est la foi, donc qui nous permet de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, et qui nous permet de voir la continuité du dessein de Dieu dans un acte de foi, et ce qu'on appelle le sens allégorique des Écritures. Les Écritures portaient déjà en semence le Nouveau Testament dans l'Ancien, et en même temps l'Ancien devient apparent d'une manière totale dans le Nouveau Testament. Et saint Augustin le dit très bien en disant que, dans le fond, l'Ancien Testament patette dans le Nouveau Testament. Alors que sinon, dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait déjà le Nouveau, mais qui était un peu caché. La tête, dira saint Augustin. La tête, pas tête. Hein. Et c'est ces deux dimensions qui permettent de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est le sens allégorique. Donc tout le credo, dans le fond, ce n'est pas une allégorie au sens, je dirais, littéraire du terme, mais c'est une sens d'un autre dire, un dire qui passe de l'enracinement de l'ancienne alliance avec tout ce qu'elle a dit de vrai vers une vérité encore plus profonde qui est un autre dire, qui est celui du Nouveau Testament. On passe de la lettre à l'esprit, comme dira saint Paul. Et on comprend très bien ce deuxième sens. Donc tout ce qui est avant le 739, c'est ce premier sens. Deuxième sens, c'est le 739. Après ça, il y a un troisième sens. C'est ce qu'il faut faire. Moralia quid agas, disait Augustin de Dacy, qui faisait des rimes sur ces quatre sens de l'Écriture. Moralia quid agas, c'est-à-dire le sens moral dit ce que tu dois faire. Et donc c'est le sens moral.
Ah oui.
Donc je vous lis le 740. Ces merveilles de Dieu offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ selon l'Esprit. Ce sera l'objet de la troisième partie du catéchisme. La vie nouvelle, c'est la vie dans la grâce, et le Concile Vatican II associe la loi naturelle et évangélique. Il n'y a pas la loi naturelle d'un côté et la loi évangélique de l'autre. Il dit explicitement la loi naturelle et évangélique. C'est-à-dire les deux ne forment qu'un. Et si je suis cohérent dans mon évangile, c'est-à-dire que je dois être cohérent aussi dans les œuvres de la nature. Et donc toute cette partie, c'est la partie des 10 commandements, et qui est précédée en même temps par une longue préface sur les béatitudes. Parce que les 10 commandements ont pour but de nous rendre heureux. C'est comme des garde-fous pour rester dans le bonheur, pour ne pas perdre de vue le bonheur. Donc c'est un passage très important que ce 740, mais encore plus le 741, où on nous dit qu'il faut prier. Et quel est le dernier sens de l'Écriture ? Quotandas anagogia, disait toujours cet Augustin d'Assise, c'est-à-dire, c'est l'anagogie te dit ce vers où tu tends. Et vers quoi nous tendons ? Vers le royaume. Donc, le royaume, nous l'attendons en espérance et nous prions. Or, la prière, c'est la langue de l'espérance. Et donc, c'est vraiment l'espérance qui est la trame de fond de cette quatrième partie sur la prière. Et voilà ce que dit le catéchisme en citant Romains 8, 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. L'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Voilà le mot prière qui sera l'objet de la quatrième partie du catéchisme. Donc c'est très bien annoncé. C'est ça qui est agréable, c'est que ce catéchisme a été très bien pensé. Alors, il y a eu déjà une première version, c'est celui du Concile de Trente, qui était aussi formulé dans ces quatre parties, pareil. C'était credo, puis sept sacrements, puis les 10 commandements, et le Notre Père, qui est la grande prière révélée par Jésus. Oui. On retrouve toujours ces quatre parties. Oui. Alors qu'ils sont modulés, c'est d'une manière assez amusante, parce que selon les urgences des temps, selon la necessitas ecclesiae, les parties sont plus ou moins longues. À l'époque de Luther, quelle était la partie la plus importante à développer ? C'était les sept sacrements, puisque Luther avait contesté pratiquement tous les sacrements de l'Église, sauf le baptême. Donc il restait presque plus rien. Et il fallait défendre les sacrements. Donc la partie sur les sacrements était plus forte. De nos jours, quelle est la partie la plus attaquée, mon cher Louis ?
La morale.
La morale. Et donc la morale a pris une place énorme dans ce catéchisme, tout simplement parce qu'on ne peut plus se contenter de répéter les 10 commandements. Il faut les maturer, il faut les enregistrer, comprendre jusqu'où il nous enseigne la volonté de Dieu. Et puis le grand appel au bonheur, car nous ne sommes pas une morale de l'impératif catégorique, nous sommes une morale du bonheur. Et donc c'est une liberté de qualité à laquelle nous sommes appelés. Et nous savons bien que la loi nouvelle est une loi de liberté.
Qui est à l'origine de ce catéchisme ?
Alors c'est donc le synode extraordinaire de 1985, qui, 20 ans après la fin du concile, vous vous souvenez que le concile s'est achevé le 8 décembre 1965, et 20 ans après, Saint Jean-Paul II, avec beaucoup de sagesse, a dit il faut qu'on fasse le point et qu'on réfléchisse un peu à tout ce qui a été élaboré au moment du concile Vatican II, qu'on y réfléchisse un peu. Et de fait, il y a eu ce synode extraordinaire qui n'était pas dans le rythme des synodes qui ont lieu réguliers, ordinaires, je dirais. Donc un synode extraordinaire qui a rassemblé cardinaux et évêques du monde entier. Le cardinal Lustiger en faisait partie et d'autres. Et il y a eu donc cette grande réflexion sur les points positifs, et aussi ils ont analysé les points négatifs dans le peuple de Dieu, mais ils ont insisté surtout sur les points positifs, et ils ont dit oui, ce qui manque actuellement, c'est un peu une récapitulation de la foi, car le Concile Vatican II a donné beaucoup de textes, trop nombreux peut-être en quantité pour que le peuple de Dieu le lise, et qui était surtout centré sur l'Église. Il ne faut pas oublier le reste de tout ce qui a déjà été révélé et donné. Il faut faire le lien entre Vatican II et tous les conciles précédents et tout l'enseignement de l'Église précédente. Et donc ils se sont mis à l'œuvre en désignant un certain nombre de théologiens. Et nous savons combien nous sommes redevables, par exemple, du cardinal von Schönborn, Christophe, qui est un frère de l'ordre des prêcheurs, qui a été choisi pour mettre en œuvre ce travail, mais sous la direction de Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, et qui a permis donc l'élaboration de ce catéchisme.
Ah oui. Qui nous est très précieux, parce qu'on a facilement accès à un résumé de tout le... toute notre foi.
Exactement. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits aussi pour rendre ce catéchisme plus disponible. Il est vendu en livre de poche. Vous avez aussi le compendium de Benoît XVI et, j'oserais dire, de ma pomme, l'abrégé de l'abrégé, la foi express, que je recommande évidemment dans les milieux où je vais pour avoir encore plus facilement accès à ce trésor de l'enseignement de l'Église qui est si riche, si précieux et dont nous avons sans cesse besoin nous-mêmes pour renforcer notre foi, notre espérance et notre amour. Mmh.
Un dernier, peut-être une question là au numéro 741, il y a une citation de Romains 8. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Ce terme de gémissement peut être peut-être mal interprété ou mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire, ces gémissements de l'Esprit Saint en nous?
Alors, il faut voir déjà que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, saint Paul dit que la nature elle-même gémit. Qu'est-ce que c'est que ce gémissement de la nature? C'est le fait qu'elle n'est pas parfaite, elle n'est pas encore dans le monde achevé, le monde du ciel, et cette nature, donc, vit les tremblements de terre, les épidémies, les souffrances, la maladie, la mort, et tout ça, ce sont des gémissements. Et nous-mêmes, dans ce monde, nous gémissons dans l'attente du royaume, mais l'Esprit Saint se fait comme le porte-parole de tous ces gémissements, donc du mal physique, du mal moral et du mal théologique, qu'est le diable que nous essayons de chasser par la foi.
Merci, frère Edouard.
Amen.